Avant de commencer cette émission, je voudrais tout d'abord rendre un hommage à Alef Beit Yehoshua, le grand écrivain israélien dont on a appris le décès ce matin. Bouli, pour les intimes, était non seulement un grand écrivain, mais c'était un militant engagé dans le combat pour la paix depuis de très nombreuses années. Il avait accompagné la création et les activités de Shalom Arshav, la paix maintenant, et pendant longtemps avait combattu pour une solution basée sur le principe de deux peuples, deux États. C'est vrai que ces dernières années, il s'était convaincu que cette solution n'était plus réaliste, on peut en discuter, et avait promu une solution basée sur le principe de deux peuples pour un État, une patrie pour deux peuples, mais ce n'est pas le sujet de cette rencontre. Je voudrais simplement donc faire part de la tristesse de quelqu'un qui a toujours répondu du décès, de quelqu'un qui a toujours répondu à nos demandes, qu'il s'agisse d'un article, qu'il s'agisse de participer à un entretien lors de ses passages à Paris. Tristesse de quelqu'un qui ne pourra pas voir de son vivant, une avancée significative dans le processus de paix du conflit israélo-palestinien. Justement, s'agissant d'une solution politique au conflit israélo-palestinien, ce qu'on constate ces derniers temps, et depuis déjà une longue période, c'est une stagnation quasi complète d'une avancée au niveau politique. Sur le terrain, c'est le piétinement, il ne se passe rien, ou pas grand-chose. Alors c'est certes le résultat de la coalition actuelle en place et le fait qu'elle est basée sur le principe du statu quo, donc on n'avance pas s'agissant de ce problème. Il y a quelques débordements d'ici et là, mais ce n'est pas significatif. C'est aussi le résultat des divisions interpalestiniennes, mais ce qui est étonnant, c'est que parallèlement à cette stagnation sur le plan politique, on constate une très forte vitalité et activité de la société civile israélienne et palestinienne. S'il n'y a pas la paix entre les politiques, au moins essayer de rapprocher les hommes, les cœurs, pour qu'il y ait une meilleure compréhension. Et dans le cadre de ces activités de la société civile, il y en a une qui s'appelle l'Alliance pour la paix au Proche-Orient. Et c'est de celle-là dont nous allons parler aujourd'hui avec Giorgio Gomel, qui est en ligne depuis Rome. Bonjour Giorgio.
Bonjour Alain, bonjour.
Donc Giorgio est économiste, mais ce n'est pas à ce titre-là que nous l'avons convié à cette émission. Nous l'avons convié en tant que président de Olmep Europe. Et donc, tout d'abord, pourrais-tu présenter Olmep, de quoi s'agit-il? Quel est cet acteur important de la société civile israélo-palestinienne?
Bonjour Alain. Non, je partage tout d'abord ta tristesse et le deuil pour la mort de Alef Beit Yehoshua. J'étais en train de regarder une photo avec lui à un salon de livres, une fière de livres en Italie il y a quelques ans. Elle était beaucoup aimée en Italie, traduite et invitée partout pendant les années. Bon, alors, l'Alliance a été fondée comme association aux États-Unis au début des années 2000 par, des militants pour la paix, surtout juifs, mais pas seulement juifs, américains. Et le comité directeur au moment est composé des Américains, des Européens, des Israéliens et des Palestiniens. Et en 2016, on a établi une section européenne qui est enregistrée formellement à Paris en plus. Et on a un petit comité directeur composé par un Anglais, un Français, moi-même, je suis le président, disons, de l'association.
Oui, c'est ce que j'ai annoncé. Et donc, cette alliance regroupe un nombre important ou assure la coordination d'un nombre important d'associations israélo-palestiniennes sur le terrain.
Exactement. C'est une communauté de ONG membres, qui au début étaient une dizaine, peut-être 20, et maintenant on est arrivé à 150, des ONG israéliennes et palestiniennes, disons un 25% de la totalité sont des ONG israéliennes qui s'occupent d'Israël, disons de la société israélienne partagée, question d'égalité et de justice sociale comme Givat Aviv, Sikroul et d'autres. Mais la plupart, disons trois quarts de la totalité des 150 sont des ONG israélo-palestiniennes qui travaillent ensemble au-delà de la ligne verte, disons. Sur des sujets différents, je peux expliquer quand même.
On y reviendra tout à l'heure.
Parfait.
Et donc, quelle est l'actualité de cette alliance? Pourquoi elle a fait, pas la une de la presse, parce que la presse couvre assez peu ce qui se passe dans la société civile, mais il y a eu des éléments, des choses importantes.
Sans doute. Comme tu disais auparavant, il y a un scepticisme profond sur la résolution du conflit israélo-palestinien à cause de la montée du chauvinisme, même du racisme, le fait que sur le plan politique, il n'y a pas de négociation. Depuis des années, depuis 2013-2014, la médiation américaine à l'époque qui avait fait faillite. Oui. Mais de l'autre côté, un petit peu d'optimisme qui vient du fait qu'il y a une société civile en Israël et dans le milieu palestinien, avec beaucoup de gens qui restent engagés, dans la coexistence, avec toutes les difficultés, quand on est bien conscient de difficultés politiques et pratiques qui s'opposent à une coexistence. Ouais.
On reviendra sur ces difficultés dans quelques instants, mais donc là, qu'est-ce qui s'est passé tout récemment?
Bon, on a eu finalement, après la pandémie et la clôture, on a organisé une conférence à Jérusalem le 31 mai, avec une présence vraiment énorme de 350-400 personnes. Une conférence qui a duré toute une journée avec beaucoup de différentes sessions et la participation des ONG que j'ai mentionné. Il y avait, par exemple, une session sur les jeunes générations, une session sur la condition des femmes dans les conflits, une session sur l'industrie high-tech, la collaboration entre Israéliens et Palestiniens sur le plan du business high-tech, une session sur, le processus régional, si les accords d'Abraham puissent donner une poussée à la résolution du conflit, et une session sur l'action violente et d'autres sessions qui ont... On a passé toute la journée à discuter,
À ce congrès également ont participé des politiques, des ambassadeurs de différents pays.
Oui, il y a eu la première session qui était ouverte, dans les jardins, peut-être il y a du monde qui connaît là le monastère de Tantour à Jérusalem, qui est très agréable en plus comme
endroit.
Et il y avait au début un discours le nouveau ambassadeur américain en Israël, Tom Knight, un discours aussi par le représentant de la Union européenne près des Palestiniens, à l'autorité palestinienne de Ramallah, et aussi le député ambassadeur de l'Union européenne à Tel Aviv, qui est français, Benoît Chappard. En donnant le sens que même au point de vue politique, il y a un soutien, un intérêt pour ce que la société civile fait.
Voilà, mais il y a un soutien politique, mais il y a également un soutien financier, puisqu'il y a eu une décision importante du Sénat américain.
Ouais.
Sur laquelle tu pourrais peut-être apporter quelques éléments d'information.
À la fin de 2020, Sénat, Congrès et l'administration ont approuvé un grand financement de 250 millions de dollars la durée de 5 ans pour, financer soit des projets de développement économique dans le camp palestinien, et soit des initiatives, ce qu'on appelle people to people, des initiatives des ONG israélo-palestiniennes. Et il y a déjà deux, trois cas de ONG qui vont bénéficier. Il y a une procédure assez compliquée pour les demandes. Il faut, il y a des
oui, c'est normal qu'il y ait des conditions particulières. Mais
des conditions particulières, bien sûr. Non,
très, mais c'est un budget très important.
Mais ouais.
Est-ce que ce n'est pas problématique, posons quelques questions qui fâchent malgré ouais. tout, est-ce que ce n'est pas problématique malgré tout que ça soit un financement étranger ouais. qui supporte, qui soutienne ces activités ouais. de rapprochement israélo-palestinien?
Alors écoutez, non, l'alliance fait normalement de la philanthropie privée. Nous on cherche des fonds privés jusqu'à il y a un an et on les distribue aux organisations membres. Et alors cette fois-ci, c'est vraiment la première fois qu'il y a eu disons un changement assez radical avec un financement public d'un gouvernement qui est très important. Et alors nous on cherche ça fait déjà quelques ans qu'on cherche à en réalité à établir un fonds international pour la paix israélo-palestinienne. Quelque chose qui rassemble ce qu'on a fait dans le cas de l'Irlande du Nord il y a 30 ans, au début des années 90. Mm-hmm. Et déjà, on a eu, disons, des contacts avec beaucoup de pays européens, hein, parmi la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Hollande, et le Canada, le Royaume-Uni, qui ont manifesté un intérêt peut-être à participer à un fonds international américain dans un fonds multilatéral.
D'accord. Mais est-ce que, autre question qui ouais. fâche, entre guillemets, on sait que parmi les Palestiniens, il y a une réticence à toute collaboration avec les Israéliens. C'est la lutte ouais. à la normalisation, ouais. selon le jargon. Ouais. Comment ça se passe avec les associations israélo-palestiniennes?
Oui,
est-ce qu'elles
ouais.
acceptent cette coopération avec des Israéliens, ou bien se contentent-elles pas de recevoir de l'argent et ensuite, ouais. dès lors qu'il mm-hmm. s'agit de collaborer sur le terrain avec l'ennemi, entre guillemets, avec des ouais, Israéliens, ouais. Les ouais. choses ne se font pas? Comment, réellement, sur le terrain?
C'est une condition très compliquée pour les ONG palestiniennes. On a passé une journée à Beit Jala et on a rencontré beaucoup de jeunes palestiniens qui font partie de mouvements de société civile, Tagir, qui veut dire chance, Zimam, Holy Land Trust, etc. Alors, disons, en deux mots, c'est dur pour eux de travailler avec les Israéliens. Il y a cette pression par ce qu'on appelle les anti-normalizers, les gens qui boycottent toute coopération avec Israël jusqu'à quand l'occupation israélienne termine. Alors, en deux mots, c'est là le sujet. Et ils font du boycottage, ils font des menaces, c'est assez compliqué. Mais, disons, leur position, c'est que c'est très important de renforcer la société civile palestinienne dans le danger aussi d'une possible désintégration de l'autorité palestinienne. C'est pas seulement le mouvement qui est contre la normalisation, mais c'est aussi la faiblesse et les dangers d'une désintégration financière et politique de l'autorité palestinienne. Alors, pour eux, l'action non violente est très importante, mais aussi pour eux, la chose importante, au point de vue politique, c'est de modifier les conditions de vie réelles dans les territoires. Par exemple, la disponibilité de l'eau, l'économie, les permis de travail, la construction des maisons, la résistance aux expulsions. Voilà. Alors pour eux, ça, il s'agit de conditions de vie matérielles qui sont très importantes. Ouais.
Alors justement, à ce sujet, on se rapproche de la fin de l'émission. Est-ce que tu peux donner quelques exemples, un ou deux exemples d'associations israélo-palestiniennes qui bénéficient du soutien de Olmep, du soutien financier?
Sans doute. Alors, je vais en mentionner trois ou quatre. Alors, la première, c'est Ecopis, qui est parmi les trois bénéficiaires jusqu'à présent du soutien de l'argent MEPA américain. Ecopis est une organisation qui s'occupe du changement climatique et de l'environnement. Et elle est la seule, c'est très intéressant, elle est la seule qui a une composition trilatérale, jordanienne, palestinienne et israélienne. Une autre que je trouve vraiment fascinante, c'est Hand in Hand, des écoles israéliennes bilingues, en arabe et en hébreu, école primaire et secondaire. Alors, une troisième qui est très connue, c'est l'organisation des familles endeuillées, c'est-à-dire des familles des victimes du terrorisme et de la guerre, qui sont, disons, 600 personnes, 300 plus ou moins palestiniens et 300 israéliennes. Et puis, une autre qui est assez connue aussi en Europe, c'est Combattants pour la paix. C'est des soldats israéliens et des, disons, terroristes, membres de la guérilla palestinienne qui ont passé du temps, des années en prison en Israël et qui ont décidé de travailler pour la non-violence, les uns et les autres. Et puis, tu as des organisations israéliennes comme Médecins pour les droits humains, les Rabbins pour les droits humains, Givat Aviva, etc., etc. Il y en a plusieurs.
Oui, nous avons eu l'occasion de parler de certaines de ces associations, de ces actions sur le site et la page Facebook de La Paix Maintenant ou de J-Call. Ouais. Voilà, les familles endeuillées est une des rares associations qui espère ne pas avoir de nouveaux membres, parce que ce sont tous des victimes de la violence, alors que généralement une association cherche à s'agrandir et toujours avoir plus de membres. Là, c'est une association qui espère ne pas grandir et en avoir de points besoin. Voilà, et bien, notre émission touche à son terme. Je te remercie. On ne peut qu'espérer qu'effectivement la société civile, avec l'aide des communautés juives et pas seulement à l'étranger, puissent continuer à avoir ce travail sur le terrain de rapprochement des hommes, des rapprochements du cœur, en attendant qu'une solution politique intervienne. Dans certains cas, on disait qu'il faut d'abord une solution politique et ensuite le rapprochement, la paix chaude s'établira.
Exactement. Ouais.
Peut-être, je ne dirais pas qu'il faut l'inverse, mais en tous les cas, on ne peut sans doute pas faire l'économie du rapprochement des personnes. Et dans ce domaine, Olmep et d'autres grandes fédérations et associations jouent un rôle important. Je te remercie de nous avoir apporté un éclairage sur cette action.
Je vous remercie. À bientôt. Toujours disponible.
Je vous remercie. Merci à nos auditeurs. Et nous nous retrouverons donc dans 15 jours pour une nouvelle émission de Chronique pour la paix.